sur Blueprint.
Salut à tous et bienvenue dans La Cartouche, le podcast du jeu vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Lou Lassina Foubert, auteur chez Third Editions et social media manager chez West France. Et toi, c'est Yann Rieder. Tu travailles entre autres pour Gamekult et Red Bull Games. Salut Yann.
Hello Lou, c'est tout à fait vrai, un plaisir de te retrouver, nos amis auditrices, auditeurs, aujourd'hui pour un épisode consacré à...
La Xbox Series X qui se dévoile peu à peu, elle décide un petit peu d'infester le monde d'informations comme le coronavirus infeste le monde. D'ailleurs, tu es en semi-alerte coronavirus.
C'est vrai.
Donc peut-être qu'on entendra une semi-alarme qui va se déclencher à tout moment du coup pendant ce podcast. Il y a eu une annonce en fait il y a deux jours au moment où on enregistre ce podcast. Nous sommes donc le 26, il est 21h27
oui.
Et il y a donc deux jours, quelques petites informations supplémentaires ont été dévoilées sur la Xbox Series X.
Oui.
Alors déjà, globalement, qu'as-tu pensé toi de ces annonces qui concernent, il faut le dire quand même, une foule de chiffres?
Alors oui, on a plein de chiffres, 12 teraflops,
c'est
la puissance que la carte graphique incluse dans la Series X permettra de sortir. On nous parle d'images en 120 images par seconde dans certains cas, du HDMI 2.1, ça c'est un chiffre mais c'est surtout un numéro de version qui permet notamment d'activer certaines technologies comme le rafraîchissement d'écran variable par exemple. Donc des données mais aussi des infos. Alors certes, certaines de ces infos étaient déjà publiées, connues auparavant, mais voilà, notre ami Phil Spencer, le responsable Xbox chez Microsoft, a pris sa plume lundi matin à 6h du mat et nous a publié ce billet de blog qui donc reprend des informations déjà connues et des informations nouvelles qu'on va donc aujourd'hui analyser. Et si je peux dire quelque chose en préambule, en quelque sorte, c'est quand même que ça a été écrit, c'est des mots très choisis, hein, c'est une équipe relations presse marketing qui a dû vraiment se concentrer autour de notre ami Phil Spencer. On n'a pas de prix qui a annoncé, on n'a évidemment pas de date précise qui est annoncée toujours à ce stade. Et donc c'est toujours difficile de faire un travail d'analyse complet sur la base de ces informations qui sont prévues pour être extrêmement positive. On peut difficilement prendre Microsoft en défaut, d'autant que Sony n'a toujours pas annoncé énormément de détails par rapport à sa machine, la PlayStation 5. Contrairement à la Series X, on ne sait pas à quoi elle ressemble. On connaît son nom, on connaît son logo. Chez Sony, on connaît 2-3 détails. Comme pour Microsoft, il y aura du SSD embarqué directement dans la machine. Comme pour Microsoft, l'accent est mis très clairement sur le fait de pouvoir jouer ces jeux avec le moins de friction possible, avec le moins de temps de chargement possible. Mais au-delà de ça, il nous manque encore pas mal de détails que Microsoft donne au compte-gouttes et garde une petite avance là-dessus, qui justement a s'attiré une couverture positive à la fois de la presse, mais aussi d'autres éditeurs qui commentent du coup les différentes annonces et qui se positionnent. On parlera tout à l'heure de Square Enix et de CD Projekt Red, qui développe évidemment Cyberpunk 2027, et pas Cyberpunker comme j'ai tapé très très vite sur le conducteur. Ça, c'est un autre jeu.
Cyberpunky Brewster.
Exactement, ce serait étrange et coloré. Que Cyberpunk est quand même très coloré lui aussi.
Donc, il y a peut-être de l'inspiration, on ne sait pas.
Ou un DLC. Bien. Alors, en tout cas, Lou, tu voulais aborder un point qui est celui de la puissance graphique.
Oui, en tout cas, on va pas revenir sur le design de la console, puisque tu l'as évoqué rapidement. On ne sait pas à quoi elle va ressembler
chez
PlayStation, chez Sony, effectivement. Elle est moche, hein, la Xbox, quand même. Il faut le dire, ça. On va pas le redire, mais
disons,
on le dit pas.
Disons en tout cas que les projections visuelles, les renders qu'on nous montre ne lui rendent pas grâce. Si elle rend mieux en vrai, tant mieux pour elle. C'est un petit peu difficile de la se représenter. C'est surtout un petit peu difficile de se dire, je vais mettre ça à côté de ma télé, alors que c'est un objet vertical qui est visiblement fait pour être vertical, vu qu'il y a une sortie au-dessus de ventilation. Ça va être un bel objet à planquer quelque part derrière une télé. Je pense qu'il y a des jeux couple qui vont se dire c'est moche quand ils vont emménager et la planquer est très très loin.
Donc nous ne dirons pas qu'elle est absolument dégueulasse, effectivement. Moi en tout cas, ce que m'a fait l'effet de cette annonce, c'est j'ai vu un mème d'ailleurs passer à ce sujet sur Twitter, c'est Marty, regarde, il y a 120 milliards de gigawatts dans cette console, c'est incroyable, ouh, c'est fantastique, c'est-à-dire c'est beaucoup de chiffres. On se retrouve en fait à l'époque de la guéguerre des consoles, 32 bits, 64 bits, 128 bits, mon dieu, c'est formidable. Là donc c'était 12 teraflops, soit 8 fois plus que la Xbox One, et 2 fois plus que la Xbox One X. Ok, d'accord, mais quel intérêt en fait ce déballage de puissance, de teraflops finalement, parce qu'ils n'ont pas parlé en fait de la seule chose qui moi m'intéresse, ce sont les jeux. Donc en gros, les teraflops, à quoi ça sert, en quoi c'est bien cette annonce de gros chiffres?
On n'aura pas, je pense, d'annonce de jeux avant l'E3. L'E3 sera l'occasion pour Microsoft de faire un gros showcase à ce stade. Je veux dire, là, on est sur le bord d'être au mois de mars. Quand vous écoutez cet épisode, on est le 28 février, donc il reste plus que deux jours dans ce triste mois bien gris et bien neigeux là en ce moment. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, à mon avis, de faire une grande conférence. D'autant plus, tu l'as dit au début de l'épisode, on est au début de l'inquiétude internationale sur le coronavirus. Si l'E3 est maintenu, potentiellement, tu vois, si l'épidémie ne se propage pas plus que ça, ça se calme un petit peu, l'E3 peut être maintenu. Mais je suis Microsoft, est-ce que j'ai envie d'organiser un raout international entre mars et mai? Non. Dans l'état actuel des choses, et étant donné en plus que Sony a décidé de sauter l'E3 cette année, la place est libre. Prenons-la, entre guillemets. Donc je pense que de la part de Microsoft, l'idée c'est vraiment de sortir les jeux à ce moment-là. C'est pas une intention qui a été écrite noir sur blanc, mais très clairement, entre Phil Spencer qui dit rendez-vous à l'E3, rendez-vous à l'E3, rendez-vous à l'E3, et de l'autre côté, Sony qui a laissé place vacante, si c'est pas nécessairement ce qu'ils vont faire à 100% de chez 100%, en tout cas, je pense que ce serait une occasion idiote à louper. Premier point. Sur la question des teraflops, bon,
oui,
je suis pas quelqu'un qui est aussi versé techniquement que Franck de Tech2. Franck, on le recevra avec plaisir pour dépiauter les specs quand on aura tout. Quand on aura l'ensemble des détails de la Xbox Series X, tout comme quand on aura l'ensemble des détails de la PS5, d'une hypothétique Switch Pro peut-être l'année prochaine, on verra avec lui dans le détail ce que ça veut dire, ce que ça permet, de quelles sont les inspirations finalement de ces spécificités hardware. Moi, quand je vois marqué 12 teraflops, effectivement, au-delà de faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire la comparaison, ça me parle pas énormément.
Donc du coup, c'est quand même problématique, parce que tu dis qu'une personne qui s'intéresse
non,
un minimum
idiot,
à la tech...
C'est tout aussi idiot que 8, 16, 64 bits. Enfin, à la base, on était parti sur des chipsets sonores. Ensuite, c'était une bête justification vraiment pour dire oh, c'est plus puissant. Puis on a laissé tomber ça à 128 bits parce que c'est devenait de plus en plus absurde. Là, aujourd'hui, on le mesure purement en termes de puissance graphique. Est-ce que la puissance graphique est la seule chose qui compte dans une console? Non. On a vu les problèmes énormes de certaines machines parce qu'elles avaient un processeur moins puissant que l'autre, parce qu'elles avaient moins de RAM que l'autre. C'est des problèmes qui ont frappé la Xbox One contre la PS4, c'est des problèmes qui ont frappé la Xbox 360 dans certains cas contre la PS3. Enfin, c'était un petit peu à discuter dans ce cas-là, puisque le gros problème de la PS3, c'est surtout qu'elle était difficile à développer pour les outils qui étaient mis à disposition. Il y en avait peu, ils étaient mal branlés, d'après les retours qui avaient été faits par la communauté des développeurs. Donc, aujourd'hui, ce que je trouve intéressant avec les 12 teraflops, c'est qu'effectivement, Microsoft positionne sa console comme elle a plus de puissance brute, en tout cas d'un point de vue graphique. Ça, c'est clair et c'est difficile de le discuter envers eux. Après, est-ce que c'est la seule chose qui compte dans la console? Non. Et est-ce que ça signifie que Sony ne va pas faire autant, voire plus? Non. Il y a des leaks qui circulent qui disent que la PS5 serait en dessous. On n'en sait absolument rien et ces leaks ne sont pas plus informés que moi, que toi ou que le pape à ce sujet.
Ah.
L'annonce viendra quand l'annonce viendra. Lou, tu voulais dire, à moins que tu aies une exclusivité de la part du pape qui...
Mais non, c'est juste quand tu as dit le pape.
Le souverain pontife.
Et le souverain pontife, peut-être qu'il joue à la console aussi. En tout cas, on ne le sait pas. On lui demandera s'il veut. Il peut nous laisser évidemment des petites étoiles sur iTunes. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, ils nous ont promis puissance et fluidité aussi, et notamment aussi un accès rapide au jeu. Donc c'est vraiment une expérience beaucoup plus, on va dire, instantanée pour le joueur, notamment en évoquant le Quick Resume, qui, moi, me fait énormément penser, en fait, finalement, à la façon dont on retrouve les jeux sur Switch, et qui, effectivement, est extrêmement agréable. On a déjà loué la façon dont on peut relancer le jeu sur Switch, et là, il s'en inspire quand même grandement, on peut le dire.
Si je peux me permettre, relancer les jeux facilement, je veux dire, quand moi, j'ai mon Forza 3 qui est en veille, j'éteins ma console, ma Xbox One S All Digital, je la redémarre. Pourtant, c'est pas la console la plus puissante de la famille Xbox, c'est même aujourd'hui une des moins puissantes de la famille Xbox, comparée, par exemple, à la Xbox One X, je reprends mon jeu, il n'y a pas de problème. Ça dure même pas une seconde pour me replonger dans l'expérience. C'est comparable à ce que je trouve sur Switch. pour le coup. Donc c'est pour ça que, en ce qui me concerne, ce qui est intéressant en fait, c'est le langage qui est utilisé dans cette annonce-là. Quand on parle du Quick Resume, on nous dit donc que c'est une fonctionnalité qui permet de continuer plusieurs jeux depuis un état de suspension, donc depuis un état de veille, instantanément, ce qui permet de retourner là où vous étiez sans avoir à souffrir à travers de longs temps de chargement. Et c'est là que le doute se glisse. Est-ce que ça signifie que on va pouvoir avoir plusieurs jeux en veille? Donc la même chose que sur Switch, la même chose que sur Xbox One, la même chose que sur PS4, mais à l'échelle de plusieurs jeux mis en suspension simultanément dans la machine, ce qui là pour le coup serait une première. Ou est-ce qu'on nous dit simplement que plusieurs jeux vont être compatibles avec ça, ce qui n'aurait absolument rien de spécial et ce qui serait juste là pour simplement augmenter artificiellement la liste des fonctionnalités de la console dans ce sens de le moins de friction possible pour votre jeu, ce qui est déjà positif sur les consoles actuelles, mais ce qui serait pas une nouveauté. Donc je veux bien croire à l'interprétation que tu en fais et à l'interprétation que j'en ai faite en première lecture, mais on s'est toujours fait mordre de temps en temps hein, par les constructeurs de consoles, les éditeurs de jeux, avec des formulations un petit peu sibyllines. Et celle-ci l'est, sibylline. Et comme malheureusement, j'ai pas notre ami Phil Spencer en speed dial sur mon téléphone pour pouvoir l'appeler et rapidement lui demander si c'est le cas, je me permets de mettre un petit grain de sel là-dedans. Quitte à être un peu trop précautionneux. Voilà. Mais si c'est le cas en tout cas, génial. Si on peut arriver à un niveau où en fait on peut quasiment créer des save states, mais de jeux contemporains, pas de jeux sur émulateur où on a la possibilité de le faire parce que c'est beaucoup plus facile de mettre quelque part, on cache dans un coin le contenu de la mémoire et dire bon voilà, ça on le recharge à un moment. S'il est possible de faire ça à cette échelle, mon Dieu, incroyable. Ce qui me met un petit peu la puce à l'oreille, c'est que si c'était possible très facilement, pourquoi est-ce que c'est pas possible, par exemple, sur Steam ou sur l'Epic Game Store ou sur d'autres launchers, d'autres environnements de jeu sur PC, là où on retrouve énormément de SSD qui pourraient servir à ça? Est-ce qu'on a des avancées en termes de vitesse des SSD sur les SSD qu'ils utilisent qui leur permettraient de faire ça? Je sais pas exactement là où ils vont, je sais pas exactement comment ça va fonctionner, mais en tout cas, je me pose la question, et oui, effectivement, ce serait une première, et oui, ce serait quelque chose du coup, de novateur pour le jeu sur console. Ce serait un point positif de jouer sur console, de jouer sur, là pour le coup, Series X, et si la PS5 fait la même chose sur PS5. Donc assez positif également. Tu relèves un truc, oui.
Oui, bah oui, j'allais dire, il y a trois raies qui sont extrêmement importantes dans la vie. Ray Skywalker, d'abord, quand même extrêmement importante. La raie du cul et le ray tracing. Encore une fois, on nous saoule avec le ray tracing. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette technologie?
Alors prépare-toi à être super saoulé pendant le 3, parce que si c'est un terme, s'il y a une conférence justement dans laquelle on va nous bourriner avec ça, ce sera la conférence Microsoft avec, regarde, mon Dieu, du ray tracing incroyable sur Call of Duty.
Bien sûr, non mais Microsoft va nous saouler avec, mais PlayStation aussi, enfin Sony va aussi nous saouler avec le ray tracing de leur côté, même s'ils seront pas à l'E3, ils vont quand même nous saouler avec cette histoire. Mais du coup, alors quelle est cette technologie qui promet des graphismes encore plus incroyables que les plus incroyables des graphismes?
Ben, c'est pas une... Enfin, comment dire? C'est à la fois marginal et une avancée intéressante. Le ray tracing permet de calculer la lumière. Pour faire très simple. Donc Minecraft en ray tracing, c'est, pour prendre l'exemple de Minecraft, hein, et vu qu'on parle de Microsoft, c'est un exemple qui est fort à propos. Minecraft en ray tracing, c'est Minecraft qui, quand la lumière, alors qui vient du soleil, du soleil du monde de Minecraft, hein, imaginons bien, mais avec son angle, va frapper un bloc, puis ensuite la lumière va se rebondir sur un bloc mat blanc, vous allez avoir la couleur du bloc du premier qui a été touché par la lumière, qui va se refléter sur l'autre. Donc vous allez avoir des effets de lumière, des effets de reflet, beaucoup plus fidèles à la réalité, entre guillemets, à la réalité du monde dans lequel vous êtes immergé dans le jeu. Le ray tracing permet de faire ça. Il permet de simuler de la lumière plus fidèlement. C'est l'usage, en tout cas, principal de cette technologie. Et ça demande des ressources énormes. Et là, qu'on puisse avoir une console qui puisse calculer du ray tracing au niveau hardware, donc au niveau vraiment au niveau matériel, potentiellement des composants à l'intérieur qui aident à être délégué pour ce genre de tâches, ça c'est assez intéressant effectivement, et ça va permettre encore une fois de suivre les performances de ce qu'on pourra pouvoir trouver sur PC. Évidemment, je dis ça avec un grain de sel parce qu'on aura évidemment des évolutions au niveau technique constantes du côté du PC, mais c'est tout de même intéressant, c'est tout de même un pas en avant, bien que, il faut être très honnête, aller checker les réflexions, aller checker les miroirs, aller checker les pare-brises quand on se promène dans son Call of Duty, c'est joli, mais c'est pas la première chose qu'on fait nécessairement, et c'est, je dirais, des améliorations qui sont marginales. Et étant donné que ça bouffe quand même pas mal, je pense que ce sera également appliqué marginalement avec un niveau de détail qui pourrait être plus limité, histoire encore une fois de bien balancer les performances. Plus tu regardes ce genre d'annonces, on te parle notamment bah voilà, du ray tracing, on te dit bah, potentiellement les jeux, on va en parler après, hein, mais pourront monter en 120 images par seconde, on va pouvoir changer le taux de rafraîchissement de l'image, donc là encore une fois le nombre d'images par seconde, de manière variable à certains points de l'image ou certains calculs, certains pixels les calculer à différentes vitesses, à différentes fréquences quand on génère une image. Tout ça laisse à penser qu'il va y avoir sur cette génération de consoles-là, en tout cas chez Microsoft, une certaine granularité dans les jeux, soit parce que Microsoft ou les développeurs de jeux laisseront aux joueurs la possibilité de sélectionner un niveau de détail qui aura une influence sur le framerate, comme on l'a vu d'ailleurs avec la Xbox One X, qui permet de sélectionner un meilleur framerate ou un niveau de détail plus élevé. Donc on peut s'attendre à ça. Ou alors, pour suivre un petit peu les rumeurs bah, qui ont notamment été relevées par notre ami Epion, qui ancien journaliste chez jeuxvideo.com, qui aujourd'hui travaille chez Bungie, avait déterré ce lièvre selon lequel Microsoft, au-delà de faire la Series X, donc cette console 12 teraflops, etc., a une autre console dans sa manche qui sortirait normalement également à la fin de cette année et qui serait moins puissante. Donc, d'avoir ces technologies-là, en fait, qui puissent être réduite pour pouvoir fonctionner, enfin être moins utilisée pour pouvoir fonctionner sur un hardware de qualité moindre en termes de puissance, tout simplement. Donc ça, c'est, je dirais, le point important sur le ray tracing. Tu voulais relever quelque chose sur le 120 FPS que j'ai un petit peu spoilé?
Oui, bah en gros, on nous rebalance. On a déjà fait chier avec... Pardon, vulgarité. Oh. On a déjà embêté avec le 60 FPS pendant très longtemps. Hein, HD, 1080p, 60 FPS.
Mais c'est très bien qu'on nous embête avec le 60 FPS.
Bien sûr. Mais maintenant, on passe au 120 FPS. Est-ce que finalement, on va vraiment avoir... Donc 120 FPS, on va traduire un vite fait. C'est le nombre de frames per second. Image par seconde. Images par seconde. Oui. Est-ce qu'il y aura vraiment une différence du coup de passer à 60 à 120? D'accord, c'est deux fois plus, mais l'œil humain quand même, enfin voilà quoi. L'œil humain.
Je sais pas si t'as fait une expérience. J'ai fait une expérience intéressante quand tu es sur le document, quand tu es sur l'annonce de notre ami Phil Spencer. J'ai recherché un terme. J'ai cherché 4K. Il n'y a pas une mention de la 4K. Pourtant, elle va pouvoir afficher une image 4K, elle va pouvoir afficher des jeux en 4K. Mais non, on n'en trouve pas une mention. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que justement, avec la Xbox One X, on a eu, je l'ai dit tout à l'heure, cette idée d'une console très puissante qui permet soit de faire tourner un jeu, alors dans plein de cas, hein, en 4K, ou dans une résolution supérieure au 1080p traditionnel de la Full HD, et donc en 4K ou équivalent à 30 images par seconde, ou en 1080p 60 images par seconde. C'est l'un ou l'autre. La plupart des cas, quand le jeu a été patché pour fonctionner avec Xbox One X. Ça, c'est cette génération-là. Pour la prochaine génération, la question est de savoir si Microsoft est prêt à demander aux développeurs, à commencer évidemment par ces développeurs first party, tous les studios qu'ils ont rachetés, de faire ce trade-off complètement, c'est-à-dire de dire cette génération-là, elle commence à 60 images par seconde, quoi qu'il arrive, avec la possibilité, avec la possibilité d'aller jusqu'à 120, dans certains cas, pour des jeux qui seront vraiment pas trop demandeurs visuellement. Je vais caricaturer un petit peu, mais pour un... Mettons pour un...
Pour Minecraft,
voilà. Pour Windjammers, pour Street of Rage 4, pour ce genre de choses. Est-ce qu'on peut monter à 120 dans certains cas? Oui, non, etc. Ça, c'est une vraie question. S'ils sont prêts à penser cette génération-là comme crucial d'un point de vue d'image par seconde, de fluidité d'image, plutôt que en priorité de résolution, je pense qu'on y gagnera. Même si toutes les personnes qui ont acheté une télé 4K vont tirer un peu la gueule, je pense qu'on y gagnera. Encore une fois, là, dans le blog, dans le communiqué de presse qui a été lâché par notre ami Philou en début de semaine, on nous parle de 60 images par seconde standard. Standard, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on le vise par défaut, mais ça veut aussi dire que si c'est un standard, bon, bah parfois on est au-dessus, parfois on est au-dessous. Il y a toujours une possibilité pour qu'on nous sorte des jeux en 30 images par seconde, voire en framerate un peu instable, parce que la vie, c'est la vie. On avait un budget et on avait des deadlines. Et on a un bilan financier, il faut vendre le jeu, il faut qu'on le sorte à partir d'un certain point. Mais ça pose quand même la question. Si, encore une fois, c'est le signe que cette génération-là est la génération de 60 images par seconde, génial. Parce que c'est vraiment plus agréable à jouer. Je pense que tu fais la différence, Lou, entre un jeu de 30 images par seconde ou 60 images par seconde, c'est beaucoup plus agréable.
Oui, oui, c'est certain. C'est sûr.
Et d'ailleurs, je tiens à soulever la chose. Toutes les personnes qui ont, par exemple, un iPad Pro datant de 2017 ou supérieur, ont remarqué le rafraîchissement d'image à 120 images par seconde, et c'est plus agréable que 60 images par seconde. Quand on regarde un écran 60 images par seconde, la transition et le confort est équivalent, je trouve, à la transition de 30 à 60 images par seconde. On voit que c'est plus fluide, on voit que c'est plus agréable. Donc, c'est tout bénef, c'est positif, et je pense que l'industrie du jeu vidéo s'en porterait mieux en proposant des titres qui sont simplement plus agréables à jouer. Et je pense qu'on en a plus l'utilité que la course à la 4K, voire à la 8K, et qu'il a, à mon avis, quelque chose de complètement illusoire, étant donné les écrans et étant donné aussi simplement ce qui serait nécessaire d'être calculé pour en arriver là. Bon, on passe au Game Pass.
Oui, tout à fait. Les jeux first party sur le Game Pass, est-ce que ça peut être justement la killer feature qui peut faire plier Sony grâce à un catalogue incroyable ?
Alors la stratégie de Microsoft et de Sony d'ailleurs sur le online et sur les abonnements, clairement, c'est quelque chose qui va être extrêmement regardé et peut-être même crucial pour cette génération-là. Microsoft, à mon avis, tu vas me dire si tu penses le contraire, s'est un peu sauvé cette génération-là. Pas en proposant une console moins chère et avec des exclusivités incroyables comme l'avait fait la PS3. La PS3 s'était sauvée en réduisant son prix et en ayant eu la chance d'avoir plein de studios derrière, y compris des studios first or second party, y compris des Naughty Dog et d'autres qui ont sorti des titres comme par exemple The Last of Us, qui ont donné clairement une certaine renaissance de la console, aidé également par son support, le Blu-ray comparé au lecteur DVD de la Xbox 360. On ne parle pas évidemment de l'add-on HD DVD qui est mort et enterré, n'allez pas lui demander où il est, dans quel cimetière. Donc clairement, Microsoft a un petit peu sauvé sa Xbox One en disant regardez, on baisse son prix et en plus on offre un abonnement pas très cher qui vous permet d'installer une tonne de jeux, y compris les jeux les plus intéressants pour ce support, c'est-à-dire ceux qu'on fait nous-mêmes ou ceux qu'on finance nous-mêmes, et les voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque lancement de console, c'est un peu appuyé sur le bouton reset pour un constructeur, et pour autant, cette politique-là de mettre les jeux first party par défaut dedans, elle continue. Microsoft continue de voir le business Xbox comme prioritairement un business d'abonnement et un business de service. Ce qui aujourd'hui n'est pas très clairement ce que Sony conçoit de son business jeu vidéo avec PlayStation. Certes, ils vendent des abonnements, ils vendent l'abonnement PlayStation Plus, ils vendent l'abonnement PlayStation Now, mais de là à brader leurs exclusivités, leurs titres first party, ils y sont pas du tout. Donc, c'est super intéressant parce que c'est vrai que quand on regarde la fin de la génération, Sony ressort vainqueur, ils vendent des jeux par tractopelle, ils vendent des consoles par tractopelle, fantastique pour eux. Certes, ils commencent à être un peu débordés par la Switch en termes d'unités vendues chaque mois, chaque semaine, etc. Mais globalement, ils ressortent en termes de pure console de salon vraiment au-dessus du panier. Il y a vraiment pas de débat. Donc, il y a une... Comment dire, il y a une, peut-être un intérêt pour Sony de pas faire ça, de pas brader leurs exclusivités parce qu'il y a potentiellement plus à en tirer à vendre des titres à 60 balles et à en vendre à beaucoup de monde plutôt qu'à vendre un abonnement à 10, 15, 20 qui offrirait l'équivalent de Xbox Game Pass ou de Xbox Game Pass Ultimate. Donc la question c'est est-ce que les licences et les titres exclusifs chez Sony vont être suffisants pour contrecarrer un Microsoft qui va mettre ses titres first party sur le Game Pass dès leur jour de sortie, l'équivalent de 15 studios. 15 studios, voire plus, suivant les annonces qu'on aura par exemple à l'E3. On sait que Microsoft a encore beaucoup d'appétit. Ça peut faire mal. Là, cette semaine est sorti sur le Game Pass Kingdom Hearts 3, il n'est pas sorti si longtemps que ça, est sorti également, je crois, la version console de Two Point Hospital, qui paraît être un bon portage console.
Oui.
Il est également sorti sur Switch, sur PS4, sur PS4, etc. Donc c'est intéressant de voir que Microsoft va dans cette direction-là. Sans oublier les titres third party qui sont également présents sur le Xbox Game Pass. Et si c'est un business lucratif pour les éditeurs third party, mon Dieu, ils vont y rester. Donc, effectivement, le Game Pass combiné à une console ultra puissante, bah, ça peut faire notamment avaler la pilule d'une console un peu chère au lancement. Pourquoi ? Parce qu'on a ça, et puis on a, je vais y venir maintenant parce qu'on n'avait pas listé, la rétrocompatibilité.
Oui.
La Xbox Series X va faire tourner les jeux Xbox, Xbox 360, Xbox One, en tout cas tous ceux que la Xbox One peut déjà faire tourner, d'après ce qu'on a comme annonce.
Ce qui signifie toute la marque, tout l'historique de la marque Xbox.
Ce qui signifie tout l'historique. Ce qui signifie tout l'historique disponible via le Game Pass, parce que via le Game Pass, vous avez des jeux Xbox 360 et des jeux Xbox One. Ça signifie, par exemple, que le Forza 4 que vous avez maintenant et qui rame sur votre première Xbox One ou sur votre Xbox One S, parce qu'il faut l'avouer, hein, autant Forza Horizon 3, il fonctionne bien sur Xbox One S, autant Forza Horizon 4, il est à la traîne. Vous allez pouvoir l'avoir en 60 images par seconde, bon niveau de détail, sur la Series X. La mise à niveau de la console, juste vous achetez une nouvelle boîte et avoir tous vos jeux ou presque qui fonctionnent dessus, c'est un argument qui va être valable pour la PS5 également, puisqu'on devrait normalement avoir pas mal de rétrocompatibilité PS4 avec. Mais enfin, avec tout le reste du catalogue et avec un abonnement comme le Game Pass, c'est quand même une autre histoire. Donc là, clairement, c'est un peu l'as dans la manche de Microsoft, et je m'attends est-ce qu'ils y aillent à fond là-dessus, dans justement le 3, dans la campagne publicitaire qui viendra derrière, c'est acheter la console, on fournit les jeux. Ce sera acheter la console et l'abonnement, mais en gros, ce sera ça. Et c'est une vraie... comment dire, c'est un vrai argument pour Microsoft.
Alors, du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du Smart Delivery ?
Alors, le Smart Delivery, en fait, c'est intéressant. C'est un nom qui est donné à une technologie qui existe déjà fondamentalement. Puisque quand Microsoft a sorti sa Xbox One X, il était proposé des patchs pour les jeux que vous aviez déjà sortis sur Xbox One, première du nom, pour simplement les améliorer, pour leur offrir des textures 4K, pour leur offrir différents modes de performance, etc., etc., différentes options, pour les configurer et les afficher de la façon dont vous vouliez. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, Microsoft va proposer aux développeurs de jeux, et donc y compris à leur développement interne, de vendre un jeu pas uniquement sur Xbox One, pas uniquement sur Xbox Series X, mais techniquement sur les deux. Ce sera un jeu Xbox. Visiblement, ce sera le cas pendant plusieurs mois, voire même plus longtemps, potentiellement. Un jeu que vous allez pouvoir acheter pour Xbox, qui va à la fois pouvoir tourner, comme par exemple Halo Infinite, sur votre Xbox One et sur votre Series X, sans distinction. Le disque fonctionnera dans les deux. Et quand vous le faites passer dans la Series X, eh bien, il va simplement télécharger un patch avec les textures, potentiellement les bouts de code qui vont également avec des fonctionnalités supplémentaires liées à la console. Et ça, encore une fois, dans l'idée de limiter un maximum les achats redondants, ça c'est impressionnant pour le coup. Ça, c'est vraiment positif de voir Microsoft aller dans cette direction-là. En tout cas, pour le consommateur qui a une Xbox One, c'est une belle excuse. C'est une voilà, vraiment très 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 chouette, je trouve. Là où pour l'instant, encore une fois, la PS5, on sait pas trop ce qu'elle va faire de ce côté-là. On sait qu'elle va lire les jeux PS4, mais on sait pas si elle va les améliorer gratuitement ou non. Ça reste un énorme point d'interrogation. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça montre deux choses. Ça montre, un, que Microsoft a vraiment envie de convaincre toutes les personnes qui ont une Xbox One et qui ont été potentiellement déçues, en leur disant « Oui, d'accord, on a merdé, mais... »
Ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux, je t'avoue.
Ils sont potentiellement nombreux parce que c'était des gens qui étaient ressortis de la 360 heureux. C'est ça,
oui,
aussi qu'il faut se dire.
Donc
là, il est un petit peu question de reconquérir ces gens-là qui correspondent, comment dire, à un peu un cœur de cible, puisque tout le monde... T'as pas mal de joueurs... Techniquement, hein, t'as pas mal de joueurs 360 qui ont dû basculer vers la PS4 étant donné simplement les chiffres de vente. Ça, c'est assez nécessaire. Et d'autre côté, On parlait tout à l'heure de la rumeur, plutôt du leak potentiel qui était passé par notre ami Epion concernant les deux modèles de consoles pour cette génération-là chez Microsoft, la plus puissante, la moins puissante. On sait que la plus puissante, vraisemblablement, c'est celle-ci, la Series X. Ce qui signifie que la moins puissante, elle pourrait être annoncée. Mais mon idée, la petite idée que j'ai derrière la tête, c'est « et si la console moins puissante, elle est déjà là ? Est-ce que ce serait pas, mettons, la One X ou la One S ?» Et finalement, est-ce qu'ils se serviraient pas de ces consoles-là, peut-être en les repackageant, en leur donnant un nouveau nom, en faisant un nouveau modèle, mais qui soit finalement techniquement assez proche, pour dire bon, cette génération de consoles, c'est non seulement la console hyper puissante, mais aussi la précédente. Donc, si vous avez une console précédente, vos jeux, vous pourrez continuer de les acheter, les abonnements, vous pourrez continuer de les payer, vous continuerez à avoir ça pendant un certain temps. 6 mois, 1 an, 2 ans, dépendant de ce qu'ils choisissent de faire. Je me demande si c'est pas ça, le plot twist concernant ce deuxième modèle-là, la fameuse Lockhart, selon les noms de code qui avaient été fuités. Voilà.
Et ça, on verra surtout si ça suffit à convaincre effectivement les gens de revenir, parce que un des enjeux aussi, et tu fais bien de le souligner, de la marque Xbox, c'est de reconquérir un public, parce que en général tu ne déçois une personne qu'une fois, hein. c'est très difficile quand tu avais des clients fidèles et que tu les déçois, c'est difficile de les faire revenir à ta marque, c'est plus facile de conquérir des nouveaux clients. Là, ça va être complexe, et c'est vrai que du coup la Series X, qui à mon avis va déjà avoir du mal à s'imposer avec son nom, hein, qui est assez flou au niveau du public, ça va être un beau défi à regarder de l'extérieur et une tâche assez importante. On parlait un petit peu des éditeurs déjà tout à l'heure. On va étudier deux cas plus précisément. On va d'abord parler de CD Projekt Red avec Cyberpunky Brewster 2027. Uh-huh. Du coup, tu voulais nous en parler. Est-ce que c'est déjà un jeu que toi tu suis de près?
Pas vraiment. Je le suis parce que c'est clairement une des grosses sorties à venir dans l'industrie du jeu vidéo. C'est
tu un le jeu suis qui... journalistiquement. Quoi.
Exactement, qui est extrêmement attendu. Comme tout le monde, j'ai vu la présentation avec Keanu Reeves à l'E3, incroyable. Mais c'est pas vraiment ma cam. Par contre, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que quand Microsoft est sorti du bois, donc lundi, avec son annonce... donc ce qu'on disait tout à l'heure, Smart Delivery, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un patch gratuit pour faire tourner son jeu Xbox, que ce soit sur Xbox One ou sur Series X, avec la version la plus adaptée à la console. Cyberpunk, le compte officiel de Cyberpunk 2077 l'a annoncé tout de suite. Le jeu bénéficiera de cette technologie-là très clairement, en commençant le tweet par: les joueurs ne devraient jamais avoir à racheter le même jeu 2 fois ou à payer pour une mise à niveau de ce genre, ce qui crée une forme de précédent. Et un autre exemple que tu voulais voir, Lou, c'est celui de Square Enix. Est-ce que tu peux nous en dire un mot?
Oui, tout à fait. Ils ont juste annoncé qu'il n'y aurait pas de jeu exclusif. Et ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce qu'on disait précédemment. Il n'y aura pas de jeu exclusif aux consoles next-gen avant longtemps. Quand je dis exclusif aux consoles next-gen, c'est pas exclusif Sony ou Microsoft. C'est exclusif à ces consoles de nouvelle génération. C'est-à-dire que ce sont des titres qui sortiront sur les consoles dites de next-gen, donc la prochaine Xbox et la PlayStation 5.
C'est ça.
Mais aussi sur la Xbox One X et sur PlayStation 4, histoire évidemment de maximiser finalement le
parc installé,
la cible, le public, le parc, parce que les jeux qui sont produits actuellement par Square Enix sont des jeux très ambitieux et qui ont besoin de se vendre énormément pour pouvoir rentrer sur les frais, tout simplement. Donc c'est intéressant parce que finalement, c'est aussi ces exclusivités qui font sauter le pas aussi d'une nouvelle génération. Donc, est-ce que ça va freiner quelque part la vitesse d'installation des next-gen? On ne sait pas trop parce que, évidemment, Microsoft et Sony respectivement vont s'amuser à balancer leurs propres exclusivités sur leurs nouvelles consoles, mais peut-être qu'eux aussi seront tentés de produire des versions un petit peu à cheval. C'est aussi quelque chose que faisait Nintendo, hein. On a eu des exemples notamment avec Zelda. Mais en général, justement, les versions next-gen se vendaient largement plus, à tel point qu'on a oublié que Skyward Sword était sorti sur Wii. Hein. Qui se souvient que Skyward Sword est sorti sur Wii?
Je pense que c'est un point intéressant que tu soulèves, parce que je pense qu'ils ont tous appris de ça. Ils ont tous un petit peu appris de voir ces jeux-là sortir un petit peu à double. Et t'as le cas de figure où c'est un jeu majeur qui sort sur les deux machines. Et dans ce cas-là, effectivement, la machine la plus puissante, la machine la plus récente, va être celle qui aura le plus de ventes. Ce qui signifie que le budget installé pour vendre sur l'ancien support va être un petit peu gâché. Et puis d'autre part, si c'est un jeu qui sort beaucoup plus tard, on peut penser notamment au portage de je ne sais plus quel jeu Batman sur Wii U. Qui est au lancement de la Wii U, où quelques mois après, il y avait notamment un jeu Batman, Arkham, je ne sais plus quoi, qui avait été adapté dessus. Ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que même si c'est sur le nouveau support, il est déjà disponible ailleurs, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse ? Tu manques un peu le train. C'est soit trop tard pour la fenêtre de lancement du jeu, soit trop tôt pour être une vraie version remastered et avoir créé de l'intérêt, disons. Donc voilà pour ce qu'on avait à dire là-dessus. Si tu le veux bien, mon cher Lou, je vais te lire deux messages.
Bah très bien, lis-les-moi.
Et j'y réagirai également. Le premier est lié au sujet de cet épisode. C'est Scott qui nous écrit, qui nous dit « Bonjour à vous deux, j'espère que vous allez bien. Merci pour les émissions dont je profite dans les transports. Par rapport à la Xbox Series X, vu que Microsoft était en retard sur cette génération en termes de vente, dû à une communication hasardeuse au début et à un manque d'exclusivité flagrant, pensez-vous que la stratégie actuelle de Microsoft soit suffisante pour jouer à jeu égal avec Sony ?» Lou.
Comme je le disais, c'est quand même complexe parce que c'est plus, je pense, la clarté du message et un public à reconquérir. Sony est quand même sur un terrain extrêmement favorable, surtout en France. La marque PlayStation en France est très importante, plus importante que dans les autres pays européens notamment. Donc c'est délicat pour Xbox et surtout d'ailleurs de notre point de vue de français d'étudier la situation. J'ai l'impression que pour convaincre, il va quand même falloir sortir des arguments massus et je suis pas sûr que les chiffres qu'on a eus du coup il y a deux jours soient le type d'argument qui impressionne. Personnellement, je n'ai vu personne. Alors je sais que je fais une étude de mauvais journaliste hein, qui regarde un petit peu autour de lui comment ça se passe. Mais j'ai vu personne sur Twitter s'extasier en disant waouh, tous ces teraflops, je veux acheter une Xbox maintenant.
Bah, clairement, ce qui fait une console, c'est les jeux. Par contre, voilà. Les points dont on a discuté, l'upgrade gratuite sur un jeu Xbox One qui sortira dans quelques mois, le fait qu'effectivement elle sera assez puissante, le fait que potentiellement le 60 images par seconde sera visé comme quelque chose de base, tout ça fait que cette console-là, ajoutée aux jeux intéressants qui pourront potentiellement sortir dessus, pourrait effectivement sortir au-dessus.
Et puis, tu sais, au-delà des jeux aussi, si on parle purement de la console, je pense qu'il y a une chose qui est extrêmement importante et sur laquelle ça ne sert à rien de communiquer, c'est l'usage. C'est vraiment, une fois que tu as le produit en main, qu'est-ce qui se passe ? Je me souviens très bien, par exemple, on s'en souvient, c'était enregistré, c'est documenté. Oui. Vous pouvez écouter les anciens podcasts, justement, de Radio Kawa, exactement, où on a parlé de la Switch et où j'étais vraiment sceptique sur ce concept de console hybride. Et une fois que j'ai eu la chose en main, l'usage m'a parlé. L'usage m'a véritablement parlé. Comme l'usage m'a parlé pour la Xbox 360, comme ça a été le cas aussi sur la Wii, finalement, sur la Nintendo DS, ce sont vraiment des consoles qui, une fois que tu les avais en main, eh bien, ça y est, tu comprenais l'intérêt, tu sentais l'intérêt, mais véritablement, c'est quelque chose de presque difficile à décrire, c'est-à-dire que tu sens que voilà, ça fonctionne, ça te plaît et ça te parle. Alors que la Xbox One, dès le moment où je l'ai eu en main avec cette interface pourrie, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas. Et je pense qu'au-delà de ça, il va falloir convaincre à ce moment où le joueur rencontre la console, le moment unique, la première impression qui pour moi est capitale, ça va être le moment où tout va se jouer et qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette interface. Et ça, malheureusement, on pourra le savoir uniquement quand on aura la console en main.
Très clairement, l'interface est importante. Un autre point qui est important, c'est celui du prix, qui va être crucial à la fois pour Sony et pour Microsoft.
C'est une barrière.
Si Sony décide de suivre Microsoft sur la course à la puissance, on aura des consoles qui vraisemblablement ne seront pas positionnées autour de 400, mais seront positionnées autour de 500 €, pour faire très simple. Plus que ça, ce serait répéter les erreurs du passé, ce serait répéter le coup de la malédiction de la PS3 qui avait commencé très très cher et qui même, je crois, sur un des plus hauts modèles était à 600, si je dis pas de bêtises. Ou est-ce que c'était le modèle d'entrée qui était à 600? PS3, starting price, je me souviens plus, il l'avait lancé à 600 pour 60 gigas de mémoire intégrée. Oui, non, effectivement, c'est un petit peu dommage. Là où justement 500 dollars euros avec une bonne mémoire embarquée, quelque chose de plus que le modèle qui avait à l'époque 20 gigas hein, sur la PS3 d'entrée qui était également à 500 dollars, ça peut un peu plus se justifier, d'autant plus que contrairement à la PS2 par rapport à la PS3, la PS4 et la PS5 liront les mêmes jeux, en tout cas pour un temps, et la Xbox One S, X de base et la Xbox Series X liront les mêmes jeux pour un temps. Ça clairement ça change la donne et ça permet de demander plus. Justement parce qu'on est dans cette perspective de acheter la console et on fournit les jeux ou réutiliser les jeux que vous avez déjà avec très très peu de limitations de friction. Ça, voilà. Ça c'est un autre point qu'on peut malheureusement pas trop évoquer. Au-delà de faire des plans sur la comète et de dire vu ce qu'il y a dedans, vu également ce qu'ils peuvent en demander, ce sera plus du côté de 500 que du côté de 400, mais c'est de l'estimation à doigt mouillé, et s'ils choisissent de vendre des consoles à perte pour une raison ou pour une autre, ça peut encore une fois changer les dynamiques, et c'est quelque chose qui sera évidemment observé dans les mois à venir. Bien, dans ce cas-là, Lou, et c'est vraiment important que je lise parce que c'est un mail qui est surtout dirigé envers toi, je suis désolé, c'est un retour par rapport à l'épisode 63 de la cartouche où on a parlé d'où on achète nos jeux, comment on achète nos jeux. Il s'agit d'un message qui nous a été envoyé par Dark Jules, que je vais lire dans son entièreté parce que c'est à la fois un petit peu un questionnement sur cet épisode-là et en même temps un témoignage de première main. Je vais vous le lire, ça va devenir assez clair au fil du message. Bonjour à vous, je me permets de vous écrire suite à l'écoute de l'épisode de la cartouche numéro 63. Dans cet épisode, Lou parlait des endroits où il achetait ses jeux et annonce à un moment « Je ne comprends pas les gens qui achètent encore chez Micromania ». Sous-entendu qu'ils sont plus chers que chez les autres, ce qui n'est pas faux sur les nouveautés, et incite les auditeurs à privilégier Leclerc. Alors, j'apporte une petite réponse pour avoir travaillé chez ces deux enseignes 2 ans chez Leclerc et depuis 14 ans chez Micromania. Alors oui, Micromania est plus cher sur une nouveauté AAA qui vient de sortir. Plus cher non, on vend au prix normal éditeur qui devrait être appliqué partout. Ce même prix qui est, surtout sur les stores, des différentes machines identiques, qui, oui, dans toutes les grandes surfaces, et encore plus chez Leclerc, pour avoir vu ça en interne, on casse le prix du jeu pour en faire un prix d'appel, pour ainsi gonfler d'autres prix ailleurs. Je m'explique. La réforme de la loi Galland a permis aux GMS de vendre à perte dans certains secteurs d'un magasin en récupérant la perte de marge de ce rayon sur un autre pour que la marge globale du magasin soit positive. La perte générée sur le rayon jeux vidéo étant peanuts par rapport à celle appliquée sur les produits alimentaires, où les GMS et Leclerc étant le roi de ce genre de magouille se gavent en marge avec des taux sur certains rayons dépassant 500% au mépris des producteurs locaux qui crèvent en silence sans que ça gêne grand monde, et ça grâce à Leclerc qui est aussi le grand inventeur des marges arrière avec les fournisseurs. Je ne parle même pas d'Amazon, qui truande le fisc et traite ses employés de manière assez inhumaine quand on regarde les reportages qui lui sont consacrés. Alors oui, chacun est libre d'acheter où il veut, mais cracher sur Micromania comme ça perpétue la haine que l'on véhicule sur nous tout au long de l'année en nous traitant de voleurs, d'escrocs et bien d'autres noms d'oiseaux, le tout caché derrière des pseudos sur les réseaux sociaux. Vous êtes journaliste, votre statut vous impose d'aller chercher plus loin que des avis de comptoir de bar. Ni moi ni mes collègues ne sommes des escrocs, des voleurs ou des gens qui n'y connaissent rien. Alors oui, comme dans tout corps de métier, il y a quelques brebis galeuses, vous en avez sûrement chez vous aussi. Mais rien ne mérite ce qu'on prend dans la tronche au quotidien. Le jour où l'on baissera définitivement le rideau, ce qui arrivera peut-être, est-ce que vous ferez comme les autres en saluant notre mort et les 1500 licenciés qui suivront ? J'espère pour votre conscience que non. Merci de m'avoir lu et merci pour votre émission que je suis depuis son lancement et qui a de très bonne qualité sur la quasi-totalité des sujets que vous traitez. Voilà. Ça, c'était le message en entier. Enfin, ce que t'en penses, mais je pense que ça valait vraiment le coup de le lire, pour oui, le coup, depuis ton cap.
J'ai eu des réponses, j'ai eu une réponse, une intervention. Je sais pas si c'est la même personne, du coup, qui était venue me parler sur Twitter sur cette question. Bon, alors déjà, il y a une première chose à distinguer. J'aurais pas du tout en cause ce qu'il dit sur le.
C'est un témoignage, hein, ça l'engage.
Sur l'explication.
Lui. Non, mais enfin, je tiens à dire, ça l'engage lui, et ce qui est détaillé dans le témoignage fait complètement sens et me paraît tout à fait logique que ça fonctionne comme ça ne me paraît pas abscon. Après,
tout à fait.
Notre auditeur nous dit justement, on est journaliste, on va chercher plus loin. Oui, et d'ailleurs, on ne peut pas prendre pour argent comptant un seul témoignage. Je ne connais pas 15 000 personnes qui ont travaillé chez Leclerc ou Micromania. Je donne toute la crédibilité de par défaut que je donne à ce message-là. Mais enfin, ça nécessite aussi de le mettre en contexte. Vas-y.
Alors, il y a une première chose que je tiens à souligner parce que c'est pas très clair du coup dans son témoignage,
oui.
C'est que quand je parle de Micromania, je parle de l'entreprise. Oui. Je ne parle pas des employés. Les employés ne sont pas l'entreprise. Je ne me prends pas aux employés. Mm. Je parle de l'entreprise en elle-même. Donc c'est déjà faut pas le prendre personnellement.
Et malheureusement, il y a beaucoup de monde qui confondent ça et qui s'en prennent aux employés. On peut le voir d'ailleurs également au secteur des transports, qui s'en prennent à la SNCF alors que le train est en retard à cause d'une décision de l'entreprise.
Voilà. Donc, enfin, c'est quoi. Enfin, donc, la question est pas là. Donc, l'idée de se réjouir sur les licences, sur les gens qui seraient licenciés, c'est absurde et relativement désagréable à entendre aussi.
Oui, puisque c'est clairement pas ce qu'on espère et ce qu'on souhaite à qui que ce soit. On connaît bien dans le milieu de la presse également les licenciements économiques et ce genre de pratiques-là, et elles sont heureuses ni ici ni là-bas.
Enfin, passons là-dessus. Ce que j'ai répondu du coup sur Twitter à la personne qui m'avait soulevé un point de vue similaire, c'est que l'angle de l'émission était où on achète nos jeux pour faire des bonnes affaires. Désolé. Quand on achète des jeux, on va voir où est le moins cher. On se place du point de vue du consommateur. Et effectivement, quand on est consommateur, est-ce que ça vaut le coup d'aller acheter un jeu neuf à 70 euros chez Micromania quand on le trouve 20 euros moins cher, ce qui n'est quand même carrément pas négligeable, dans une grande surface à côté. Que ce soit parce que, pour des raisons X ou Y, parce qu'ils gonflent leur prix du côté de l'alimentaire, parce qu'ils font des marges ailleurs, etc. Ça, à la rigueur, en tant que consommateur, on s'en fiche. On s'en fiche strictement. L'objectif était de dire, si vous voulez acheter vos jeux moins chers parce qu'un jeu vidéo, ça coûte cher, il y a des endroits où ça coûte moins cher que dans des entreprises qui se disent spécialisées. Et en tant que politique interne, j'ai vu aussi le shift où on embauche aujourd'hui des commerçants chez Micromania et non plus des spécialistes du jeu vidéo. C'est des gens qui sont là pour te vendre du coup, te vendre du contenu, mais c'est pas spécifique à Micromania. Enfin, on a vu le monde de la vente, le monde du commerce a largement évolué depuis quelques années, avec notamment le compte des entrées dans magasin pour voir combien tu fais de ventes, combien tu réalises, etc. Enfin, c'est devenu assez hallucinant quand même, le monde de la vente aujourd'hui.
La Fnac vend des assurances bidons, enfin ça existe aussi.
Des assurances, t'en trouves aussi, assurance anti-rail du coup chez Micromania pour 1 ou 2 euros, je sais plus, etc. Mais voilà, parce qu'évidemment il faut faire fonctionner le commerce. Mais on a vu un shift justement du commerce où moi quand j'étais petit, quand t'allais chez Micromania, t'avais vraiment des joueurs, des passionnés. Aujourd'hui c'est plus forcément le cas. Donc quand je vais chez Micromania et que j'entends un vendeur, quand on lui demande des conseils pour tel ou tel jeu et qu'il répond n'importe quoi, bah moi je trouve ça dérangeant dans une enseigne spécialisée. Donc à la rigueur, désolé, et peut-être que cette personne du coup va être encore plus en colère, mais si vous voulez faire vivre des commerces qui vivent du jeu vidéo, mais allez dans les magasins indépendants. Vraiment, parce qu'il en existe beaucoup moins et ils sont beaucoup plus précaires que Micromania. Désolé, mais s'il y a un commerce à soutenir, pour moi ça va pas être Micromania, ça va être des commerces indépendants de passionnés.
Ah bien.
Donc voilà, sorry.
Si vous souhaitez nous écrire, nous poser vos questions, il suffit de nous envoyer un message à lacartouche@blueprint.pm, ça c'est par mail, ou par Twitter @lacartouchebp. D'ailleurs, sur ce compte, on y publie en avance la liste de nos prochains sujets afin que vous puissiez nous faire parler de ce qui vous intéresse.
J'en profite pour ajouter quand même une dernière chose, ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas de vendeurs passionnés chez Micromania. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que ça va me rendre encore une fois assez désagréable. En tout cas, la cartouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés attentivement et de ne pas avoir déformé nos propos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un épisode test. En attendant, abonnez-vous à ce podcast pour ne manquer aucun numéro de l'émission si ce n'est pas déjà fait, et mettez des petites étoiles un petit peu partout. Vous pouvez aussi nous soutenir en parlant de la cartouche autour de vous, La Cartouche, le 5e podcast du jeu vidéo de tous les temps francophone.
Selon Apple Podcast.
C'est incroyable.
Ça fait plein d'étoiles.
Selon
Apple
Podcast. Ça fait, il nous faut encore plus d'étoiles pour qu'on soit, tu vois, faut qu'on monte sur le podium. On y croit.
Vous êtes de plus en plus à nous écouter. Vous avez quasiment jamais été autant à part pendant le 3. Merci à vous. Merci de votre confiance. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.
À très vite. Ciao.